Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Salut à tous, nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Aujourd'hui c'est Adrien qui vous parle et on va entrer dans le game Peugeot. C'est le 205e épisode aujourd'hui, un épisode consacré à mes chers Chicago Bulls. Donc les Chicago Bulls qui ont été les premiers à effectuer de gros changements hein, suite à l'arrêt de la saison. On va en parler aujourd'hui avec un grand homme, ben, le grand homme d'ailleurs. Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Eh ben ça va très bien, surtout si on s'en fie au sujet du jour.
Ah, tu m'étonnes.
Et oui, on va avoir l'occasion d'y revenir. C'est l'épisode 205 de Dunk Hebdo, donc ça bouge chez les Bulls et c'est parti. Et on a donc eu du mouvement, c'était il y a quelques semaines quand même maintenant. Les fans de Chicago ont pu voir un peu de lumière dans cette période trouble d'arrêt de la saison NBA. Donc ça va changer du côté du front office chez les Bulls après presque 20 ans de Gar Forman qui était d'abord responsable du recrutement puis GM, plus de 10 ans de John Paxson qui était lui vice-président des opérations de basket. Et donc cette période qui arrive à son terme avec un bilan mitigé mais pas inintéressant. Est-ce que dans un premier temps on peut pas faire un petit bilan? Toi, qu'est-ce que tu retiens de ces années, les dernières années on va dire, du duo Gar Pax si bien nommé?
Ah, le duo Garpax, franchement, les dernières années, je retiens pas forcément beaucoup de positifs. Il y a eu, ils ont eu les couilles, entre guillemets, de tenter le rebuild on the fly, comme ils disent, enfin, la reconstruction, alors qu'ils avaient une équipe playoffable et qu'ils avaient un joueur All-NBA dans son prime. Et, moi, c'est ce que je retiens, en fait, c'est que c'est une reconstruction avec beaucoup de bonnes idées théoriques, mais qui ont été très mal exécutées. Et finalement, on se retrouve à se demander est-ce que c'était la meilleure chose à faire, alors qu'au moment où ils décident de partir sur une reconstruction, on était quasiment tous d'accord pour dire que c'était le bon moment pour faire ça.
Oui, c'est vrai que la reconstruction, elle semblait assez logique. On sort de quelques années, on peut remonter à peu près. Bon, 2011, c'est la grosse année chez les Bulls. L'explosion de Derrick Rose avec un banc, une équipe qui est plutôt solide. Et d'ailleurs, je crois que Gar Forman a le titre d'Executive of the Year cette année-là. Donc jusqu'ici tout allait bien, et puis ensuite coup sur coup il y a eu plusieurs choix discutables, même du côté de la draft hein, qui a parfois été plutôt bonne du côté des Bulls, mais là coup sur coup on a eu Marquis Teig, Tony Snell, Took McDermott avec un mouvement, avec des échanges de joueurs qui peuvent être critiquables pour monter dans ces drafts, puis Bobby Portis et Denzel Valentine, donc que des joueurs qui sont soit plus dans la ligue, soit plus chez les Bulls, soit Denzel Valentine on va voir cet été. Et puis ensuite voilà, il y a les différentes équipes avec le choix de Fred Hoiberg pour le coaching aussi qui a été un peu compliqué, l'équipe de 2016 donc comme tu disais pour entourer Butler avec Wade et Rondo, la cohérence sur le papier, voilà, beaucoup de gens se sont posé des questions, puis bon, même si ça a été plutôt pas si mal cette saison comme tu me le disais un petit peu juste avant, c'était en playoff, c'était bien parti.
Ça t'aura toujours le what if si jamais Rondo ne se blesse pas, puisque vous meniez après deux matchs à l'extérieur, pardon, vous meniez 2-0 face à Boston, quoi, et puis Rondo se blesse, vous perdez 4 matchs de suite.
C'est ça. Alors moi, je suis persuadé qu'on aurait gagné, mais effectivement, c'est un what if. Puis après, il y a eu donc après ces histoires-là, le trade de Butler, les soucis à la main aussi, on a enchaîné des saisons avec Cherian Grant, Isaiah Cannan, MCW, Michael Carter Williams. Cameron Payne, on avait Spencer Dinwiddie dans l'effectif qui a pas joué pour finalement se retrouver chez les Nets, et tant mieux pour lui, ça se passe bien. Donc effectivement pas mal de mouvements sur les dernières années, alors qu'ils sont pas forcément tous à imputer au GM Gar Forman, mais quand même une bonne partie forcément quand on a ses responsabilités. D'ailleurs, je vous renvoie un article que j'avais publié sur Twitter, d'ailleurs je te l'avais envoyé, un article qui a été publié par Stefno qui bosse pour The Athletic, il me semble.
Debit writer qui couvre les Bulls.
C'est ça, et du coup qui a récapitulé un peu tous ces mouvements des dernières années qui ont amené à ben en fait au soulagement de la fanbase des Bulls à l'annonce, donc on y vient évidemment, l'annonce du changement du front office, donc exit John Paxson, ça c'est à peu près sûr. Gar Forman aussi, on va voir peut-être qu'ils vont rester dans l'organigramme.
Dans l'organigramme, c'est ça, avec un petit rôle dans les placards, quoi.
Exactement, donc on sait pas trop. Alors tout a commencé à peu près quand même, voilà, la fanbase des Bulls suite à tout ce qu'on vient de dire était un peu irritée. Il y avait l'All-Star Weekend de cette année qui était à Chicago, on a vu quand même 2-3 pancartes Fire Gar Pax un petit peu partout quand même.
En direct.
On va pas se le dire.
Des chants Fire Gar Pax en direct quand Zach LaVine passait en direct à la télé.
C'est ça. Puis les sièges de l'United Center qui avaient un taux de remplissage assez élevé puis qui commençaient un peu à se vider. C'est tout ça qui a sûrement amené du coup bah Michael Reinsdorf, le fils de Jerry. Donc Jerry Reinsdorf qui est le propriétaire des Bulls. Michael est son fils et c'est lui qui a un peu hérité du bébé dernièrement. Et il a donc décidé un peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière et il y avait plusieurs candidats quand même au moment de changer tout ça. On a vu des interviews, alors il y a eu des refus des personnes concernées, des fois des équipes, il y a eu Chad Buchanan des Pacers si je me souviens bien, oui. Zanik du Jazz, Adam Simon à Miami, il y a eu le GM de Toronto aussi il me semble, si je dis pas de bêtises, Webster je crois c'est son nom.
Oui. Ouais, c'est ça.
Voilà,
et ils n'ont pas eu la permission pour Presti aussi.
Ah oui, également. Effectivement, Presti qui était le suspense. Pierre a peut-être eu un peu peur. En tout cas, pas de souci pour le Thunder. Et le dernier à avoir eu un entretien, du coup, c'est Arturas Karnizovas, donc ancien joueur NBA, qui est aussi, du coup, essuie les plates-bandes. Il a été scout international pour Houston il y a peu, puis assistant GM aux Nuggets. Et puis même GM du coup d'ailleurs depuis 2017, donc il était GM des Nuggets et ben c'est lui qui a été choisi pour devenir le vice-président des opérations basket, donc il prend texto le rôle de John Paxson, quoi. Il y a a priori c'est texto ce rôle là donc exit Paxson qui deviendra peut-être
quand il est président.
Il est président des opérations, c'est vrai, il est plus vice-président, c'est même encore mieux.
C'est ça, il est président des opérations basket, donc c'est lui qui est le numéro 1 en gros pour les décisions basket dans la franchise.
Voilà, donc du coup, ça veut dire, là, tu parlais des reconstructions qui étaient surtout des reconstructions d'effectifs qu'on avait ces dernières années avec Gar Forman, John Paxson. Là, c'est reconstruction depuis le haut de la pyramide pour descendre ça. Petit à petit. Donc, Karnizovas, toi, qu'est-ce que t'en penses de Karnizovas? Est-ce que tu trouvais ça... Enfin, il y a eu beaucoup de... Les gens étaient plutôt satisfaits, enfin, de moi, ce que je vois dans la fanbase des Bulls. Le CV est solide, des bons moves quand même pour Karnizovas ces dernières années aux Nuggets. Comment tu le vois, toi?
Moi, je trouve que parmi les personnes qui ont été interviewées, c'était l'un des candidats qui semblait le plus légitime. Hein. C'est un joueur... C'est quelqu'un qui est vraiment très respecté dans la ligue, qui a eu pas mal de réussite au niveau de la draft, même s'il a eu quelques manqués. C'est lui, du coup, qui est à l'origine du transfert lors de la draft pour McDermott.
On y revient, donc, oui.
Donc, du coup, vous récupérez McDermott et vous donnez Gary Harris et Yusuf Nurkic. Mais c'est aussi lui, en fait, qui était dans le bureau et dans les instigations pour le transfert qui a mené Donovan Mitchell au Jazz. Donc, il y a quand même du bon côté et du mauvais côté. Et un mauvais côté dans le travail qu'il a pu fournir. En tout cas, moi, je trouve que c'est un move qui est vraiment intéressant pour quelqu'un qui était vraiment très apprécié, très respecté autour de la ligue. Et puis, se baser sur quelqu'un qui était dans la reconstruction de Denver, je pense que c'est une très bonne chose puisque je pense qu'on peut faire limite un parallèle sur le type de construction qu'il va y avoir aux Bulls et le type de construction qui va se passer à Denver.
Oui, c'est vrai, similaire à ce qu'a fait Denver, et puis aussi ce que tu disais, je trouve qu'il y a un point important, c'est un mec respecté. La plupart des, on a vu des réactions de la part de plusieurs personnes dans les différents front office de la ligue et même de commentateurs qui saluaient plutôt ce mouvement, disaient que c'était quelqu'un qui était aussi proche des joueurs et respecté des joueurs, et c'est assez important quand on voit la petite scission qu'on a pu voir ces derniers temps entre le staff des Bulls et les joueurs par déclaration ou en tout cas information fuitée de part et d'autre. Donc c'est une bonne chose et il a l'air de vouloir faire les choses les choses bien en prenant son temps, les choses étape par étape. Alors son premier boulot, enfin son premier gros chantier, ça va être de trouver un GM, donc un general manager. Mais il a déjà récupéré, emmené avec lui dans ses bagages un assistant GM qui était aussi chez les Nuggets, c'est Pat Conley. qui va...
Le frère de Tim Connelly, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Le frère de Tim Connelly, qui est le directeur des opérations basket des Nuggets, qui est, lui, vraiment spécialisé sur le scouting. Il a aussi ramené DJ Polk dans ses valises, qui est...
qui était au Pelicans, oui.
Voilà, qui était au Pelicans et qui est très bien regardé, qui est un peu ce qu'on appelle les capologistes, donc les experts du CBA, du salary cap, qui vont permettre de faire des mécanismes financiers et de bien négocier les contrats.
Ça, c'est un
donc,
peu le top
ça, c'est
des
Bulls. Très bien, ouais. c'est ça. Bon, j'irai pas jusque là, mais bon, c'est un peu dans l'esprit. Après, moi, je trouve que c'est bien, en fait, pour les Bulls qui, enfin, historiquement, ont un front office de base assez réduit par rapport aux équipes NBA. Enfin, c'est une franchise qui met pas forcément énormément de ressources dans tout ce qui est autour du basket, quoi, dans les exécutives, en fait, dans la partie basket. Donc ça amène un changement qu'il n'y avait pas dans cette franchise, et c'est surtout un recrutement en dehors du cercle Bulls, quoi, le cercle Bulls classique où il y a beaucoup de recyclage de comment ça s'appelle, enfin, un peu du copinage.
Ouais, il y a un entre-soi, John Paxson, qui était un ancien joueur, puis tout le monde se connaît. Il y a un côté, un système un peu limite mafieux, certains le disaient avec plus ou moins d'ironie, du côté des Bulls. C'est sûr que c'est un vrai coup de frais, en tout cas, une vraie tentative de la part des Reinsdorf Perefis, de mettre un peu de neuf. Donc voilà, donc ça, c'est les deux qui ont, donc JJ Paul qui est Pat Conley qui viennent avec Karnizovas. Mais le gros boulot, ça va être le GM pour avant de faire quoi que ce soit, parce que avant de prendre des décisions par rapport à Boylan, on pourra y revenir. Donc le coaching staff du côté des Bulls, Karnizovas a fait 2-3 déclarations en disant qu'il voulait tout d'abord trouver un GM et y aller étape par étape, quoi. C'est-à-dire être en accord avec son GM plus que prendre tous les pouvoirs pour lui, avoir un vrai binôme et mettre en place, comme tu dis, un front office qui ressemble plus à ce qui se fait de manière moderne dans le reste de l'NBA, quoi.
C'est ça. Après, il y a quelque chose qui est intéressant dans les déclarations de Karnizovas, c'est qu'il dit qu'il espère, enfin, récupérer quelqu'un, non seulement qui est complémentaire, c'est-à-dire avec qui il va partager des points de vue importants sur la structure de l'équipe, mais quelqu'un qui a des compétences que lui n'a pas pour pouvoir vraiment compléter, couvrir le plus large spectre possible. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très respectable. Et je pense que ça change de ce que les Bulls ont eu auparavant, où tout le monde était entre guillemets d'accord, et au final, la décision se prenait sans vraiment qu'il y ait de gros débats en 360, quoi, entre les différents membres de la table décisionnaire.
Oui, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression, enfin, ça semblait être le cas, que c'était très vertical comme fonctionnement. Là, on passerait sur quelque chose d'un peu plus horizontal, ou en tout cas,
exactement,
avec plus de voix qui comptent dans les décisions à venir. Alors, il y a quelques petits noms, il me semble, qui arrivent pour la place de GM. On voit circuler Matt Lloyd, du Magic,
ouais.
Mark Hughes, je crois, des Clippers, et j'en ai vu un autre, mais il me revient pas tout de suite. Mais
Adrian Griffin.
Oui. Ah oui, bah Adrian Griffin, ça, ce serait le retour à la maison de quelqu'un qui était très regretté. Que d'ailleurs, on peut revenir sur ce petit bilan de Gare Forman. C'était la scission avec Thibodeau qui a commencé notamment avec le départ de Griffin, qui était donc assistant de Tom Thibodeau à ce moment-là. Donc, est-ce que Griffin voudrait revenir avec un changement de front office? Bonne question. En tout cas, moi, je serais pas contre, personnellement. Mais voilà, donc plusieurs noms, mais il n'y a pas encore beaucoup d'infos. On va pas s'avancer outre mesure pour pas grand-chose.
Enfin, Lloyd, il était déjà aux Bulls, en fait. Lloyd, il était déjà aux Bulls il y a quelques années.
Oui, également,
avant de partir avec Robin Ingan
au Magic.
C'est ça. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va jouer. Bon, en tout cas, tous les noms qui sont... Enfin, ce sont des personnes qui sont en place depuis longtemps, qui ont des postes importants dans d'autres franchises. Et ce sont des personnes qui ont montré qu'elles étaient dignes de confiance. Donc, à voir si les Bulls auront l'occasion de pouvoir mettre la main sur l'une de ces personnes, quoi.
Ouais, non, mais puis c'est intéressant ce que tu disais sur, effectivement, le passage aux Bulls. Il y a aussi un côté des gens qui ont un attachement plus ou moins aux Bulls, quand même. Parce que j'ai vu en cherchant que JJ Polk, donc, qui vient comme assistant general manager, avait étudié, lui, à une université de l'Illinois. Donc, il était aussi du coin. Enfin, voilà, on a beaucoup de noms qui circulent autour de gens qui auraient un attachement aux Bulls. Voilà, pour peut-être que c'est un signe de, je sais pas, de motivation ou de loyauté qu'essaye de chercher aussi Karnizovas pour construire, parce qu'on est sur un projet. Voilà, les Bulls sont, les fans sont plutôt contents, mais on va pas être champion en 2022. On va quand même raison garder, comme on dit, évidemment. On est sur une vraie reconstruction par les bases. Donc, va falloir prendre son temps. Et justement, Prendre son temps, ça signifie pas prendre de décision sur l'équipe trop rapide. Alors, la première question, c'est celle du coaching staff, forcément. Après, il y aura celle des joueurs. Peut-être commencer par le coaching staff, évidemment. Alors, Boylen restera, restera pas. A priori, du côté des fans, on est plus trop pour un départ de ce cher Jim qui nous a gratifié de rotations incroyables, de conférences de presse lunaires. Je sais même pas si lui est au courant de ce qu'il faisait. Enfin, c'était assez particulier. Et puis
de leadership committee.
Oui, et puis en plus, on a eu quelques déclarations contre Boylen que j'évoquais un peu en début de podcast, plus ou moins à demi-mot là depuis le confinement. Que ce soit Satoranski, Wendell Carter, Mark Cannon, qui s'est un peu plaint de son implication du côté offensif. Donc, même si, hein, Laurie, restons calmes, on a aussi des choses à se reprocher soi-même. Mais voilà, on a eu des déclarations de plusieurs joueurs. Pas trop de côté de la vanne, il est occupé à jouer à Touquet et à faire des horses. Mais voilà, ça fait plusieurs joueurs qui sont quand même assez importants dans l'effectif actuel des Bulls. Hein, notamment Wendell Carter et Mark Cannon, ils sont quand même au centre du projet sportif actuellement.
Ouais.
Donc a priori, on se dirigerait plus pour un départ de Boylen et évidemment plusieurs noms circulent, dont notamment ce cher coach Atkinson qui fait saliver beaucoup de monde, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu ferais toi, Tom, vers où tu te dirigerais?
Moi, je pense que avant toute chose, il faut savoir si le front office et le président, entre guillemets, pas le président, le propriétaire est prêt à payer. Vu la crise actuelle, la crise financière actuelle, ça va pas forcément être facile pour un propriétaire de payer quelqu'un pour qu'il ne travaille plus chez lui. C'est-à-dire que si tu pars sur un nouveau coach, ça veut dire que tu as une partie de l'argent en fait qui va être investi. D'une part, tu vas continuer à payer les indemnités de Boylen et il faudra ensuite payer le nouveau coach qui va arriver. Si tu vas chercher un gars, donc faut voir déjà de ce côté-là, est-ce que le propriétaire il est d'accord avec ça ou est-ce que lui il va. On sait que le enfin, historiquement, les Bulls sont très proches de leurs sous.
Oui, bah, Reinsdorf, Jerry est plus fan de son équipe de MLB que de son équipe, ouais, de basket.
C'est ça. Donc ça, c'est la première chose à voir. Est-ce que le propriétaire est prêt à engager des frais pour que des personnes ne travaillent plus chez lui?
Bah,
donc ça, c'est la première chose.
Ça a sûrement été discuté entre Karnisovas et lui, mais effectivement, nous, on n'a pas l'info.
C'est ça, on n'a pas l'info. Ensuite, il faut voir au niveau des coachs, il faut savoir que il y aura pas mal de postes qui vont certainement se libérer. Je pense à, par exemple, il y a des problèmes de négociation, notamment pour Mike D'Antoni à Houston, il y a le poste des Nets. Donc peut-être que ces postes-là, en fait, vont attirer des plus gros noms, entre guillemets, que ce que les Bulls pourraient chercher. Donc tu as parlé d'Atkinson. Atkinson, c'est un nom que moi j'aime bien. Dans le côté philosophie, formation des jeunes joueurs. Le problème avec ça, c'est est-ce que Atkinson, lui, il veut rester attaché à ça? Est-ce qu'il veut avoir cette étiquette de coach de développement et quand tu as besoin de mener une équipe au titre, tu prends quelqu'un d'autre? Est-ce que lui, il veut pas peut-être un challenge pour changer un peu sa vision pour, puisque là, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir mener une équipe, entre guillemets, qui était taillée pour le titre, qui avait le talent, entre guillemets, le talent des deux meilleurs joueurs pour jouer un rôle majeur dans une conférence. Il n'a pas eu l'occasion de le montrer en playoff et il n'a pas eu l'occasion de coacher les deux joueurs qu'il avait, quoi. Donc, du coup, on reste toujours sur le Kenny Atkinson, développeur de talent, d'Angelo Russell, le mec qui arrive à faire briller des seconds couteaux. Est-ce que lui, il veut toujours cette étiquette ou est-ce qu'il veut. Voilà, se montrer une autre facette de lui, quoi, une facette de ok, je peux gérer une équipe qui a pour ambition d'aller au titre. Donc ça va être la première chose. Et puis ensuite, moi je vois bien quelqu'un comme Davey Orger, par exemple, qui a eu l'habitude d'avoir des paires intérieures à faire fonctionner, sachant que bon, les Bulls de base, la reconstruction a été fondée sur une paire d'intérieurs qui est Mark Cannon et Wendell Carter, même si au final, on se rend compte que les joueurs qui sont aujourd'hui plus importants dans l'effectif sont Zach LaVine et
White, Kobe White. Oui, non, mais c'est intéressant. Alors déjà sur l'image de Atkinson, enfin que lui veut se donner. En fait, c'est là, ça dépend où il en est. C'est intéressant. J'ai lu aussi cette semaine un interview de David Blatt, donc qui avait coaché les Cavs et qui était venu lui où on lui avait offert un projet de développement de jeunes joueurs et qui s'était retrouvé donc derrière avec LeBron James, Kevin Love et une équipe taillée pour le titre et qui exprimait le fait que c'était pas évident parce qu'il a dû changer toute son approche par rapport à ce qu'il lui avait été promis. Et on peut faire un peu le parallèle avec Atkinson qui lui était en train de construire son équipe des Nets sur une base, sur un collectif avec peut-être un talent moindre, mais en tout cas il est progressivement petit à petit gravir les échelons et s'est retrouvé tout de suite avec deux gros talents. On a vu que ça a l'air de casser d'avoir cassé dans le vestiaire. Donc est-ce que Atkinson peut recommencer ou partir sur totalement autre chose? C'est sûr que ça lui incombe. Mais c'est aussi possible qu'ils veuillent comment dire un projet sur du moyen terme et c'est peut-être ce que peuvent proposer les Bulls et tu parles aussi de l'attractivité des Bulls par rapport à d'autres équipes du poste de coach des Bulls. C'est vrai que ça, c'est un gros problème ces dernières années qu'on avait sous Gar Forman et John Paxson, que ce soit pour les joueurs ou pour le staff. Les Bulls avaient pas l'air d'attirer vraiment les envies des grands noms, hein, on va pas se mentir. C'est peut-être un des autres aspects positifs de ce changement. Et il y a un autre nom de coach, moi, que j'ai vu circuler dernièrement, c'est celui de Bill Self, qui est le coach de Kansas, donc en NCAA. Ouais. Et c'est un autre profil aussi intéressant vers lequel pourraient se diriger les Bulls et Karnisovas, dans une optique de, parce qu'on parle souvent des coachs en NBA, c'est toujours aussi un peu le même microcosme. On parle un peu de système mafieux du côté des Bulls. Parfois, les coachs, on revoit toujours les mêmes noms. Alors, des fois, juste titre, hein, ça reste de très bons coachs, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que les Bulls pourraient pas tenter de faire un peu ce qu'ont fait les Celtics il y a quelques années, ou de donner sa chance à un nouveau coach, même si c'est ce qui avait été fait sur les deux derniers coachs en date, hein, puisque Boylen et Hoiberg avant n'avaient pas d'expérience NBA. C'est un autre profil. Bill Self, ce serait pas inintéressant. Je le vois aussi circuler. Est-ce que ça te parle?
Moi, je pense. Ça me parle un peu, mais je pense pas en fait que ce soit. Je pense pas que c'est vers ça en fait que les Bulls iront. Enfin, ils ont déjà essayé l'approche de prendre des coachs rookies. Ça a pas forcément très bien marché dans leur processus de reconstruction.
C'est un euphémisme.
T'as parlé de Hoiberg. Hoiberg qui avait été à l'époque où c'était vraiment la vibes. Tout le monde voulait avoir son Brad Stevens.
C'est ça.
Il a été pris pour ça quoi et pour développer le Hoiberg à l'époque.
Ouais, mais ça.
Pas si tu t'en
souviens. Ouais, mais justement le pauvre quelque part, je vais un peu l'excuser parce que on lui promet de pouvoir développer son offense, donc le Hoiberg qui est un jeu avec beaucoup de dynamisme et des shooter, et on lui offre l'effectif avec Rondo qui est plutôt un meneur de jeu qui veut avoir la balle et lui mettre en place les systèmes, et Wade est donc associé à Jimmy Butler. Enfin, en tout cas, il avait pas un effectif qui semblait correspondre à cette philosophie là, ce qui pourrait être différent cette fois-ci.
Mais tu vois, par rapport aux échecs récents, tu vois, John Beilein aussi cette saison au niveau des Cavs, voilà. Enfin, Bill Self, c'est quelqu'un qui est en NCAA qui est un nom vraiment marquant en fait, puisque c'est le coach d'un programme avec une grosse renommée.
Oui,
comme Kansas.
Puis on rappelle que la NCAA c'est une ligue de coachs en plus, donc les gars sont des vrais stars là-bas.
C'est ça. Donc je doute vraiment que ce soit l'approche choisie. Après, en termes de nom, si jamais ils partent sur un coach rookie, je pense vraiment qu'ils iront vers quelqu'un qui a fait ses preuves offensivement, puisque globalement en fait, quand tu arrives à bien faire fonctionner une équipe offensivement, ça te permet d'augmenter la valeur de tes joueurs. Globalement, puisqu'ils statent mieux, ils sont plus efficaces, et du coup, le regard et la perception que les autres ont d'eux peut évoluer. Donc, je me dis qu'ils peuvent partir sur quelqu'un comme Chris Finch. Alors, Chris Finch, c'est quelqu'un qui était assistant offensif à Denver quand Denver a explosé avec Jokic. Et là, qui est parti à New Orleans, c'est les Pelicans ont une grosse attaque.
Ouais, donc, ils ont fait plaisir à beaucoup de monde hein, cette année.
C'est ça, il y est depuis l'an dernier, et puis ils ont toujours une grosse attaque, un bon jeu offensif. Prenez le jeu offensif et avec un fort système offensif. Donc peut-être que c'est un candidat qui pourrait être intéressant, sachant qu'il a déjà travaillé avec Karnisovas à Denver.
Évidemment, mais du coup tu soulèves aussi un autre point, c'est l'identité qu'il y a à mettre en place aussi, la volonté donc de ce nouveau front office du côté des Bulls de créer quel type d'équipe veut-il monter, est-ce que voilà comme tu dis une équipe offensive, est-ce qu'on va repartir sur une équipe très défensive, c'est plus trop la mode en ce moment, mais sait-on jamais, est-ce qu'il faut recréer une vraie identité de jeu particulière, est-ce qu'il faut se fier un peu à ce qui se fait un peu partout, parce que comme tu disais avec ce nouveau front office plus large avec beaucoup de monde dans différents domaines, différentes expertises, on est plus sur une uniformisation en ce moment du jeu NBA. Enfin, en tout cas, une tendance à plus ou moins se rejoindre sur les analytics, sans les caricaturer ouais. comme ferait un Chris Webber, par exemple. Et donc voilà, la question, c'est aussi celle-ci, c'est est-ce que tu prends un coach sur... Parce qu'a priori, le prochain coach, si tu le prends, c'est pas pour le virer dans 2 ans, vu que on est sur une vraie reconstruction, au moins à moyen terme. Donc, il faut qu'il fit la volonté de l'ensemble du front office et donc de l'équipe des Bulls. Voilà, c'est une vraie question. Bon, évidemment, on n'aura pas la réponse tout de suite, mais moi, personnellement, je suis assez curieux sans avoir d'avis tranché. Tu vois, tous les noms qu'on a évoqués peuvent avoir du sens dans la mesure où c'est réfléchi et c'est cohérent avec et le front office et ce qui va suivre. Donc, forcément, le sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est les joueurs. Forcément, qu'est-ce qu'on va faire de cet effectif des Bulls? Et bon, il y a déjà cet été, forcément, il y a la draft qui est le prochain, quand même, rendez-vous à date. Mais il y a la première free agency de cet été. A priori, ça devrait pas trop bouger. C'est plus pour 2021. Mais commençons par cet été. Bon, quel est l'état des lieux des Bulls, Tom?
Déjà au niveau du coach et du jeu analytique, Boylen a essayé de faire quelque chose, notamment offensivement, où il a essayé de mettre une attaque en place avec très très peu de shoot à mi-distance.
C'est
ce
vrai.
Qui fait en fait que les Bulls, globalement, hein, les Bulls ont entre guillemets une shot chart analytics, dans le sens où ils prennent beaucoup de shoot
près du panier,
dans le petit mi-distance et près du panier, et le reste des shoots sont pris à 3 points. Le problème que ça cause, c'est que comme ça fait pas partie des forces naturelles des joueurs, ben t'as pas mal de joueurs qui jouent un peu contre nature, et je pense que ça a pas mal joué, notamment sur Markkanen, et aussi je pense Kobe White. Tu vois, par exemple, un gars comme Kobe White, vers la fin de saison, quand il fait ses 40 ans, il prend des shoots à mi-distance.
Ouais, il pull up à mi-distance.
Il prend des shoots à mi-distance. Et en fait, je pense que, notamment pour des joueurs comme ça, développer le shoot à mi-distance, c'est quelque chose qui est important, puisque ça va leur permettre après d'aller au cercle. Quand tu as une menace à mi-distance, on sort sur toi quand tu es ouvert à mi-distance. Donc du coup, ça te permet en fait d'être une menace et d'aller plus facilement au cercle. Alors que si on sait que tu prends jamais le tir à mi-distance, on va t'atteindre au cercle. Et vu Kobe White et les difficultés qu'il a à finir aujourd'hui, et je pense que il y a pas mal de limitations physiques qui expliquent ça, hein,
tout à
pour
fait.
L'instant. Donc du coup, je pense que lui développer un jeu à mi-distance, ça va plutôt lui servir.
Oui.
Markkanen aussi, notamment dans le côté flow, puisque Markkanen, tu l'as dit, il a beaucoup été utilisé cette saison comme un talent dépendant, c'est-à-dire que c'est un joueur qui servait plus de floor spacer, c'est-à-dire d'écarteur de jeu pour ouvrir des espaces de drive et sanctionner les équipes sur des retours de passe à 3 points. Sauf que c'est un joueur dans sa première saison et même dans sa seconde saison qui créait beaucoup plus pour lui-même en fait, qui avait beaucoup de création individuelle, et c'est quelque chose qui a totalement disparu.
Et depuis le poste aussi d'ailleurs, qui est un autre facteur qui est moins utilisé dans ce type d'offense.
C'est ça. Et c'est quelque chose qui est très brutal et qui est un changement très brutal, notamment pour les joueurs. Donc je pense que le basketball totalement analytics n'a pas été une bonne chose pour les Bulls parce que le personnel ne permettait pas. Et même quand tu vois que voilà, les Bulls, c'est une équipe qui a pas mal de shoots ouverts à 3 points, ben, les shoots ouverts à 3 points, c'est parce que les shooters ne sanctionnent pas. Hein. C'est un peu le phénomène Tony Allen à Memphis, où à une époque, Memphis c'était l'équipe qui avait le plus de shoots à 3 points ouverts dans la ligue. Mais c'est sûr que quand c'est Tony Allen, c'était Sean Prince qui shoot, on va lui laisser shooter. Tu vois, donc c'est bien en fait le côté analytique, mais pas quand c'est quelque chose qui est voulu par la défense adverse. Et puis le côté le truc qui est marrant en fait, c'est que c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire, notamment défensivement face aux équipes moyennes et moins bonnes, puisqu'ils avaient un système très agressif défensivement
qui
provoquait beaucoup de pertes de balles, avec notamment Chris Dunn qui était très très agressif sur les pré-rotations, sur la défense du pick and roll, sur les
traps. C'était limite du blitz sur chaque pick and roll.
Ils étaient vraiment très 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 agressifs. Et c'est quelque chose qui leur a permis de survivre face aux équipes moins bonnes, puisque globalement, ils ont eu une défense plutôt moyenne hein, par rapport à l'ensemble de la ligue. Et quand tu vois le niveau du personnel défensif,
bah, oui, c'est presque un miracle.
Une bonne chose. Voilà, c'est presque un miracle. Et mais par contre, ils se sont fait atomiser littéralement par les bonnes équipes de la ligue, puisqu'ils se retrouvent à un très faible 2 sur 25 face aux équipes à plus de 50%.
Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est intéressant le côté de vouloir appliquer les analytics, à prendre les bons shoots, etc., mais ne pas le faire, en tunnel vision, comme disaient les Américains, genre en regardant droit devant.
C'est ça, le bon shoot, c'est le shoot qui rentre. Hein.
Exactement. Et puis, à contrario, c'est assez aussi paradoxal, mais genre le profil de Wendell Carter, on l'avait évoqué d'ailleurs dans le podcast en début d'année à propos des Bulls aussi. Wendell Carter, qui lui, pendant toute la première moitié de saison, comme tu l'as dit, la fin de saison, ça avait un peu évolué. Mais la première moitié de saison, ne regardait même pas le panier. Et donc, comme tu dis, voilà, si tu regardes pas le panier quand t'es à 3 points ou en tête de raquette, et bah forcément on va te défendre un mètre moins un peu plus bas, et du coup c'est plus compliqué pour les autres, enfin pour ton spacing, et donc prenaient les shoots à 3 points, c'était facilement identifiable pour la défense, et donc ils pouvaient facilement laisser les shoots qui leur plaisaient le plus entre guillemets. Donc effectivement c'était un vrai souci avec le personnel, avec l'application de ce système offensif et ce personnel. Et la défense, je suis d'accord, mais je pense que finalement ça, est-ce que c'était vraiment un mauvais choix? C'est-à-dire que effectivement, t'es meilleur que les équipes en dessous de toi, t'es moins bon que les équipes au-dessus. Ça a permis, ouais, avec, comme tu dis, un effectif où les défenseurs à peu près corrects, on va citer Chris Dunn, Wendell Carter, Otto Porter.
Hey, plus que correct. Hein,
Chris Dunn. Oui, non mais
moi, Chris Dunn, il est quasi dans ma All-NB, All Defensive Team cette saison.
On est bien d'accord, il a été incroyable.
En plus, il joue au poste 3.
Ah oui, bon, ça c'était avec des line-up. Voilà, il a bien servi d'ailleurs Boylan sur ce genre de choses. Il y a Shaq Harrison aussi qui a repris le relais derrière et qui était très très bon sur Porter notamment.
Ouais, il s'est blessé au visage. Ouais.
Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des bons défenseurs, bons voire très bons, tu les comptes sur les doigts d'une main et t'en fais même pas un 5. Donc, finalement, en tout cas, l'idée défensive semblait plutôt cohérente. Est-ce qu'on peut garder là-dessus? Après, ça a amené beaucoup de frustration parce que c'est très spécial comme façon de défendre, comme tu disais. Donc, cette espèce de blitz sur le pick and roll qui faisait monter limite sur une prise à deux, donc le grand et le défenseur du porteur, obligeait les joueurs derrière à faire des rotations très intelligentes et très rapides. Et ça amenait parfois des paniers... des rotations ratées et donc des paniers très très simples encaissés où on s'est fait pilonner à l'intérieur par un nombre d'équipes assez, et c'était assez frustrant à voir notamment. Donc est-ce qu'on privilégie cette efficacité moyenne dans l'optique d'être correct moyen, ou est-ce que un des nœuds du problème n'est pas aussi de ramener du monde au United Center, parce que c'est quand même, je pense, une des raisons qui ont fait réagir Reinsdorf sur l'état des Bulls, parce que les Bulls sont normalement une équipe qui attire beaucoup de monde, c'est une équipe qui a beaucoup de fans à travers le monde, forcément, évidemment. Voilà, donc est-ce que quelque chose de plus risqué, mais de plus alléchant, n'est pas aussi peut-être l'idée de ce qu'il va falloir développer avec le prochain coach et le prochain effectif, quoi?
C'est ça, parce qu'en fait, les Bulls, ils terminent la saison, si jamais la saison s'arrête ici, avec la 15e défense et la 27e attaque. Et c'est là, en fait, le côté vraiment décevant avec cette équipe-là, c'est que quand tu regardes l'effectif et le personnel qui est à la disposition de Boylan, tu te dis,
mais
en fait, si cette équipe-là, si c'était l'inverse, limite, on aurait peut-être parlé d'une bonne saison, puisque le côté offensif, il saute beaucoup plus aux yeux, et quand tu sous-performes offensivement, ça se voit bien plus que si tu sous-performes défensivement, vu le collectif qu'il avait, en fait, vu le type de joueur qu'il avait à sa disposition. Tu te dis que si jamais ça avait été dans le sens contraire, limite on aurait moins su de reproches à lui faire.
Oui, c'est très probable. L'attaque statique, en plus, ça devenait caricatural. Surtout sur les fins de match où c'était du hero ball, en fait, tout simplement, parce qu'il y a eu des moments où comme tu disais, il y avait une volonté de trouver le bon shoot ouvert, etc., et ça ressemblait à quelque chose, mais en la plupart des fins de match, la plupart des clutches, c'était j'allais dire à toi à moi, mais même pas, c'était balle à la vine, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Même si après Kobe White a quand même fait quelques flashs, donc effectivement ça va être un axe. Alors le truc, c'est que cet effectif, on était à peu près tous d'accord avant la saison pour dire qu'il était intéressant, qu'il y avait quelque chose à faire, que les playoffs étaient jouables, pas forcément, voilà. Et puis d'ailleurs, il l'était, hein, puisqu'on voit bien à la fin que on n'était pas si loin, je crois, six matchs des playoffs, malgré.
Ouais, vous êtes à l'aise, les gars.
Oui, mais... non, mais voilà. Non, mais c'est pour ça que c'était pour remettre dans tout le contexte. C'est-à-dire que les playoffs sont atteignables, mais il faut voir dans quel contexte, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que cet effectif en santé, parce que c'est aussi un point qui va être intéressant pour Kardizovas à développer, c'est quid du staff médical. Mais cet effectif en santé, il y a probablement quelque chose à y faire, notamment du côté offensif, parce que bon, Satoransky était très décevant cette saison, je vais pas le cacher.
Tadjong aussi qui était attendu un peu comme le leader entre guillemets de vestiaire, un peu le patron, qui a été vraiment décevant sur le terrain, notamment enfin de ce que j'ai pu entendre sur les fans des Bulls, qui n'apportait pas ce qu'on attendait de lui.
C'est ça, mais il y avait un côté surtout très frustrant. Moi, j'ai du mal à comprendre Tadjong, qui devait être le vétéran qui calme un peu les ardeurs des jeunes, et qui avait l'air d'être frustré les passages où il était un peu moins dans la rotation, quand on avait Carter et Markkanen tous les deux en forme et qui prenaient beaucoup de temps de jeu. Et quand il s'est retrouvé titulaire suite à plusieurs blessures, il a contribué des fois plutôt pas mal. Donc il y avait cette impression en tout cas des jeunes joueurs frustrés de leur temps de jeu et qui se mettent à jouer une fois qu'ils peuvent avoir la balle. Donc c'était un peu contradictoire avec l'image et le pourquoi il a été signé.
Et puis Carter aussi, il y a quelque chose qui peut expliquer aussi le fait qu'il n'était pas forcément bien, puisque s'il reprend le rôle de Markkanen quand Markkanen n'est pas là et que son rôle c'est de shooter à 3 points, c'est un joueur qui ça fait 11 ans qu'il est en NBA, c'est pas son jeu ça.
Ah oui, c'est sûr.
C'est pas son jeu, il était dans l'équipe qui prend le plus de shoots à mi-distance, qui joue le plus dans la zone intermédiaire. Donc c'est vraiment pas son jeu ça. Donc du coup, après 11 ans de carrière, de devoir remodeler ton jeu alors que tu es un vétéran respecté et que tu as fait le choix d'aller aux Bulls, je pense que c'est, et surtout que je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de respect en fait envers Boylen. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il a mal digéré et qui a entraîné ça, quoi. Mais après, en fait, globalement, quand tu regardes les Bulls et quand tu les regardes jouer, hein, tu as l'impression vraiment que c'est une équipe qui manque de liant, puisque les joueurs qui ont de la capacité de création après dribble sont pas forcément des créateurs pour les autres. Ah oui. Et ont pas mal de vision tunnel. Alors oui, Zach LaVine, a bien progressé sur ces aspects du jeu. On voit qu'il arrive à faire les bonnes passes de temps en temps, qu'il arrive à trouver les coéquipiers, qu'il arrive parfois à anticiper l'aide pour jouer sur le joueur qui sera pas couvert. Donc ça, ce sont des lectures qu'il n'arrivait pas à faire, ou du moins qu'il ne faisait pas il y a deux saisons, et qu'il arrive à faire. Par contre, Coby White, c'est quelque chose qu'il ne fait pas du tout, où il cherche vraiment à scorer en priorité, quoi.
Oui, même des fois caricaturalement, genre il se rend compte qu'il a un peu trop scoré et il va ensuite forcer la passe sur le pick and roll par exemple et générer des pertes de balles un peu bêtes. Effectivement, il y a pas de vrai créateur. Ça devait être Satoransky un peu le créateur pour les autres.
Mais je pense que dans l'idée c'était pour ça qu'il était là, quoi. Puisque en gros, moi je trouve que cette équipe là elle manque d'un un metteur de table.
On y revient, avec la métaphore.
Tu vois, en fait, la problématique, en fait, c'est que tu as pas mal de joueurs qui sont très intéressants, qui ont un jeu sans ballon vraiment très intéressant, et comme on disait, qui sont des talents dépendants. Et quand tu as pas mal de talents dépendants, notamment à l'intérieur, il te faut quelqu'un pour les servir dans les bonnes dispositions, pas pour les rendre meilleurs, puisque j'aime pas ce terme-là, mais pour leur faciliter l'entrée dans leur jeu et faciliter la façon d'exploiter leurs compétences.
Mais est-ce que
par exemple un joueur qui est très critiqué, par exemple un gars comme John Wall, tous les joueurs qui jouent avec John Wall sont payés.
Ah ça. il y en a un qui du coup est payé par les Bulls ce matin.
Ah bah ouais, autoporteur, tu vois. Quand tu reprends les autoporteurs, les Ariza, les Jared Dudley, tous les mecs qui jouaient, tu vois, le rôle de je shoot, je suis dans le coin, j'attends, je suis shooter, j'ai pas besoin de la balle, ils ont tous été payés en jouant avec John Wall. Puisque certes, John Wall, c'est quelqu'un qui a pas mal de déficiences en fait dans son jeu. C'est quelqu'un qui est pas forcément entre guillemets analytique friendly et qui a des limitations liées à son shoot qui mettent un certain plancher, en fait un certain plafond qui est plutôt bas sur l'équipe, mais qui met un plancher plutôt haut parce qu'il facilite le jeu des autres. Ben c'est un joueur qui permet en fait de faciliter le travail des autres joueurs en leur mâchant le travail de création le plus possible.
Ouais, mais du coup, est-ce que
ça, il y a manqué ça au bout.
Ouais, voilà, mais du coup la question que je me pose, que je te pose, que je vous pose, chers auditeurs, c'est un peu, est-ce que ça avait pas été les étapes ont pas voulu être grillées un peu vite du côté des Bulls, c'est-à-dire que t'as un un cœur d'effectif, pardon, de jeunes joueurs, la plupart, même s'il y en a qui commencent à avancer. Zach Lavine n'est plus tout jeune, mais il a quand même 25 ans, donc ça va. Et tu veux tout de suite mettre en place donc un système un peu analytics et les faire s'adapter, tes jeunes joueurs, à un système. Là où, pour développer des jeunes joueurs dans un premier temps, comme tu le dis, l'important, enfin, un des axes majeurs de progression, c'est tout d'abord de les mettre dans une zone de confort pour qu'ils prennent confiance en leur qualité première et qu'ils développent leur qualité première pour ensuite pouvoir s'adapter à un basket qui est plus contre nature. Donc finalement, il y a eu un... Enfin, pour moi, on a voulu aller trop vite en besogne. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a confondu vitesse et précipitation. Dans un premier temps, fais jouer ton effectif de la manière dont il a le plus l'habitude, ce qui permettra aussi d'ailleurs à tes vétérans de pas être perdus et de pouvoir tout tranquillement insuffler un rythme, comment dire, un rythme cohérent dans ton vestiaire. Et voilà. Et je pense que c'est ça c'est le point qui peut être changé et je pense qu'il va l'être, puisque j'ai assez confiance, vu la façon dont est construit ce nouveau front office, de y aller étape par étape et de ne plus vouloir aller trop vite en besogne, de passer de on a voulu faire une construction beaucoup trop rapide. C'est-à-dire que oui, t'as reconstruit un effectif sympa, mais fallait pas aller tout le début de saison, on avait toutes les déclarations, on va retourner en playoff, c'est l'objectif de retourner en playoff, jusqu'à ce qu'on te rende bien compte que, en fait, non. L'objectif, c'est d'abord de développer ton effectif, développer tes joueurs, voir qui a de la valeur, qui tu veux garder ou non dans ton projet. Et ça va être ça le nerf de la guerre de ce qui arrive sur les prochaines saisons.
Bah, je sais pas si on peut parler de reconstruire trop vite, parce que globalement, quand tu regardes la fin de la saison dernière, avec quand Otto Porter était revenu, t'avais Lauri Markkanen qui était vraiment bouillant, Zach Lavine aussi. Enfin, l'équipe finit plutôt bien la saison avec le retour d'Otto Porter, et tu te dis ah. Ouais, on a vraiment un effectif un peu comme les Hawks l'an dernier où ça finit très fort et tu te dis, bah, tu vois, il y a peut-être quelque chose à faire l'an prochain. Donc, du coup, on va construire dans ce sens. Donc, ils ont peut-être été piégés par... peut-être qu'ils ont vu l'équipe un peu trop belle qu'elle ne l'était. Et le problème aussi qu'il y avait, c'est qu'en fait, t'as pas mal de joueurs théoriques en fait aux Bulls. T'as beaucoup de joueurs qui sont capables d'eux, mais qui ne sont pas encore, tu vois.
Oui, ben oui.
Il est capable d'eux, mais il fait pas ça, tu vois. Et ça, c'est peut-être là où je dirais pas que le front office s'est trompé, hein, mais c'est peut-être la limite qu'il y a pu avoir entre la construction et le entre guillemets le rush pour un petit peu aller plus vite que la musique, puisque non seulement on a une conférence Est qui est assez faible, mais la fin de saison était vraiment très encourageante. Quand les Bulls étaient entre guillemets au complet l'an dernier, c'était vraiment pas mal. Et du coup, on a abordé le cas d'Otto Porter. Otto Porter il a pas joué assez de matchs.
Ah bah clairement pas.
On parle de quelqu'un qui a joué 300 minutes. Voilà,
à 27 millions la saison.
C'est 3 fois moins que Chris Dunn, alors que Chris Dunn s'est cassé le visage sur un dunk, quoi. Enfin, c'est non mais c'est n'importe quoi, il a joué que 50 matchs sur Chris Dunn. Et malgré ça, enfin, Otto Porter, il a joué 40 matchs, et c'est pas possible. Donc, lui, ça va être quelqu'un à surveiller, notamment, cette intersaison, de voir ce qui va se passer de son côté. Et je pense que ce qu'il va faire va beaucoup dépendre, en fait, de la stratégie des Bulls après.
Oui, mais je pense aussi que le choix des Bulls va aussi dépendre de ce que réclame Chris Dunn et de ce qu'on peut lui offrir ailleurs. Parce que, Chris Dunn, comme tu dis, en l'état, c'est vraiment typiquement le joueur dont tu parlais qui fait déjà des choses très très bien, qui est un défenseur élite, on peut le dire, sur son poste, mais ouais, qui a des lacunes clairement identifiées. Et on attend qu'il ait... Alors, pas qu'il les comble totalement, parce que ce sera jamais un shooter naturel, mais il manque c'est très frustrant, Chris Dunn. Moi, je l'aime beaucoup, mais c'est très frustrant parce qu'il lui manque une toute petite chose pour devenir un joueur non négatif en attaque, en fait, et ultra positif en défense, qu'il est déjà. Le problème actuellement, c'est que la balance est compliquée, donc t'as pas envie de payer ce type de joueur beaucoup trop selon ce qu'il réclame. Donc, je pense que ça va aussi dépendre de lui. Et pour Otto Porter, effectivement, quand il a été là, c'est justement ce type de liant qui manquait un peu à cette attaque, où il est capable de faire des passes assez rapides, de pas arrêter le ballon, de faire vite, de du coup servir certains joueurs comme Markkanen dans des positions qui leur plaît plus. Donc c'est sûr que c'était intéressant, mais quand je parlais d'aller un peu vite en buzzon, c'est effectivement on s'est un peu enflammé sur la fin de saison, mais c'est aussi parce que compter sur le fait que tous tes joueurs d'un coup, comme tu dis, tu vois, progressent sur les choses qu'ils ne faisaient pas. Parce que c'est un peu ça. Tu te dis, ah bah l'année prochaine, si Zach Lavine devient meilleur créateur, Markkanen devient encore meilleur offensivement, Otto Porter retrouve son niveau et Chris Dunn devient non négatif en attaque, alors on a une super équipe. Mais ça fait beaucoup de si pour arriver à quelque chose de quoi. Donc bon, malheureusement, ça a été plus compliqué que prévu, quoi.
C'est ça, ce sera les quatre grosses décisions de l'intersaison. Hein. Quid de Otto Porter, est-ce qu'il va activer son option ou pas?
Moi, a priori,
je pense qu'il activera son option à 28 millions 5 pour la saison prochaine.
Je le ferai à sa place.
C'est ça, après t'as Denzel Valentine, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce que l'équipe va lui proposer la qualifying offer? Est-ce qu'il va l'accepter ou est-ce qu'il va être prolongé? T'as Shaquille Harrison aussi qui a la même problématique, et t'as Chris Dunn qui lui a une qualifying offer à 7 millions mais qui a un cap hold à 16 millions. Donc à voir ce qui va se passer de ce côté-là. Donc ouais, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec ces quatre joueurs là, sachant que voilà, t'as des joueurs qui vont quand même rester dans le roster. Tu vois, Daniel Gafford qui a montré pas mal de choses intéressantes dans son rôle cette saison, un peu qui a apporté pas mal de verticalité au jeu par sa gravité au cercle. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut donner je trouve que c'est un joueur qui va pas bouger du coup. Même Chandler Hutchinson qui a montré parfois quelque chose d'intéressant mais trop souvent blessé, on a l'impression de revoir Otto Porter bis, tu vois, le mec.
C'est totalement ça.
Il peut être intéressant, il est intéressant mais il joue jamais, quoi, parce qu'il est tout le temps blessé, il a toujours un truc. Et puis va falloir voir aussi au niveau du staff médical des Bulls, puisque ça c'est quelque chose qui est assez récurrent, enfin Mirotić, Portis, Paul Zipster, enfin voilà, ça commence à faire les problèmes de blessure.
Les années précédentes.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être vu. Et il a du travail, quoi, Carni Sauvas.
Ah,
il a vraiment du travail.
Il a du travail, mais son travail. Enfin, en gros, pour moi, l'objectif de l'année prochaine, le vrai objectif, c'est de rendre à nouveau les Bulls attractifs. Parce que, alors, ce sera peut-être pas le vrai virage important, mais on sait quand même que la Free Agency 2021 va voir beaucoup de monde sur le marché et beaucoup de très beaux monde. Alors après, évidemment, il y a des player options partout, mais théoriquement, on pourrait avoir Giannis, LeBron, Kawhi. Et puis des noms comme Chris Paul, Blake Griffin, Anthony Davis, il me semble aussi. Enfin, en tout cas, la Free Agency 2021 va avoir beaucoup de monde. Est-ce que les Bulls devraient essayer de redevenir attractifs, de garder évidemment une sécurité financière, parce que si tu veux, et récupérer une grosse star donc à la Free Agency 2021, quoi. Ou tenter de le faire en tout cas.
Moi, franchement, je n'y crois pas du tout. Franchement. Enfin, désolé.
Ah non, mais il n'y a pas de souci.
Désolé pour les fans des Bulls. Hein. Moi, je n'y crois pas du tout, en fait, de jouer la Free Agency 2021 avec un groupe comme ça. Puisque tu as trop de questions entre. Enfin, tu vois, on parle de fit. Tu vois, le fit entre Lavine et Kobe White, il n'est pas si évident que ça. Puisque,
enfin, c'est deux profils.
Certes, offensivement, c'est deux profils très similaires. Et puis, en défense, tu fais comment?
D'où Chris Dunn.
Enfin. C'est ça, donc j'y crois pas vraiment d'aller chercher un gros joueur, non seulement parce que le projet sera peut-être pas assez avancé, puisqu'il y aura d'autres marchés et d'autres contrats qui seront beaucoup, d'autres places en fait, qui seront beaucoup plus attractives, et ce qui risque de se passer, c'est que aller sur le marché de 2021, c'est prendre un gros risque de surpayer des joueurs moyens, parce que les premières options seront toutes parties. Et au final, il va falloir que tu te ramènes avec quelque chose et tu vas finir par surpayer quelqu'un. Tu vas utiliser de l'argent pour un joueur de gros calibre, pour des joueurs de calibre moindre, parce que tu auras peur de ne rien avoir à la Free Agency. Donc moi, je pense pas que c'est quelque chose qui devrait jouer. Je pense plutôt en fait qu'il devrait, tu vois, par exemple, essayer d'utiliser son contrat finissant pour récupérer un joueur qui est déjà sous contrat et qui peut entre guillemets correspondre au fit sur le long terme et qui est moins blessé. Alors, j'ai pas vraiment de nom, mais un type de joueur, par exemple, comme un gars comme peut-être Harrison Barnes, c'est quelqu'un qui joue beaucoup de matchs, qui a un contrat plus long, qui a un contrat dégressif, et qui joue à une position où vous avez vraiment un manque.
Oui, mais d'un autre côté, t'envoies quand même aussi un 3, mais oui, je comprends l'idée. Ouais, peut-être. À voir quelle est la valeur d'Otto Porter, qui est très blessé, comme tu le dis souvent, je sais pas si.
C'est ça. Parce que tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Disons. Enfin, le cap space, il est parce que bon, Markkanen, il aura un cap hold à 20 millions, mais on peut espérer que vous le signez pour moins que ça, et que Otto Porter et Felicio sortent des finances.
Oui.
Si jamais vous signez Pearson, est-ce que vous n'allez pas repayer Porter? Peut-être moins cher, mais le cap space, au final, tu vas l'utiliser pour récupérer sur des joueurs que tu avais déjà et pas forcément sur de nouveaux joueurs.
Ah oui, clairement. Non, mais moi, je serais pas contre. Enfin, autoporteur en santé, moi, je demande à voir. Comme tu dis, on l'a très peu vu, mais...
Mais est-ce que ça existe dans un monde autoporteur en santé, tu vois? Moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, tu vois, tu as pas mal de joueurs. Comme les Américains aiment dire, viability is the best ability. C'est-à-dire le fait d'être présent, c'est ta meilleure compétence. De pouvoir jouer, c'est ta meilleure compétence. Et en fait, autoporteur, enfin, tu peux pas continuer à prendre des joueurs qui ont des problèmes de blessure et te dire.
Oui, c'est ce que dirait
Ben. Si tout le monde est en santé, tu vois, si tout le monde est en santé, ça marchera, tu vois.
C'est ça, c'est un peu un adage de Ben, c'est qu'à un moment donné, si le gars a toujours été blessé, il y a peu de raisons de penser qu'il arrêtera d'être blessé. Il y a très peu d'exemples.
Bradley Beal.
Ouais, Steph Curry, si on veut, d'une certaine façon.
Ouais.
Mais effectivement, mais d'un autre côté, les blessures, en fait, les blessures sont tellement récurrentes chez les Bulls qu'on a envie de les mettre sur le dos du staff médical plus que sur les joueurs. Alors sûrement à tort, mais c'est aussi c'est une tendance qu'on a vite qu'on a facilement en tout cas moi que j'ai facilement en tant que supporter des Bulls des dernières années, parce que je pense qu'il y a, alors autoporteur c'est peut-être plus compliqué, mais il y a des joueurs qui sont blessés que je considérais comme des mecs solides normalement, et je me dis il y a quelque chose qui va pas en termes de préparation physique, quoi.
Mais après, tu vois, il y a des fois, c'est des blessures de match, tu vois. Chris Dunn qui.
Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose.
Qui se réceptionne mal avec son dunk qui retombe sur son visage, tu vois. Tu peux rien y faire,
ça. Ah, ça, pas, c'est sûr.
Mais c'est surtout pour les problèmes de diagnostic, en fait, tu vois. Autoporteur, on dit, il va peut-être commencer la saison, il est pas à 100%, il aura des limitations de minutes.
Voilà. Oui, et puis la transparence.
Après, t'apprends que le mec, il avait c'est ça, le mec, il t'apprend que, voilà, il avait, il doit se faire opérer, quoi.
Oui, il y a Mark Canel aussi pour ça aussi, en début de saison, où on sait pas, il joue, on sent bien qu'il est diminué, mais il y a aucune communication autour, puis finalement, au bout de plusieurs matchs, en fait, il joue depuis le début de la saison avec une blessure au dos, du coup, il a du mal à shooter, enfin, à avoir son geste de manière naturelle, tu dis, alors du coup, est-ce que t'étais obligé de le faire jouer? Enfin, voilà, il y a toute une question de transparence, de transparence, de communication et puis de mise en pratique de comment dire.
Mais, ouais, c'est ça, d'application et de communication autour des blessures. Même, tu vois, même Valentine la saison dernière, le mec a un day-to-day et opération de fin de saison.
Oui, la cohérence. Enfin, sachant qu'il n'y a pas de communication, ça paraît totalement incohérent vu de l'extérieur, c'est clair et net. Le diagnostic. Bon, on n'en sait rien forcément, vu qu'il n'y a aucune communication, mais c'est vrai que ça surprend à chaque fois. Et puis aussi des joueurs qui reviennent, on sait pas, on n'avait aucune nouvelle, puis d'un coup, paf, allez, tu vas jouer avec les rotations plus de Boylan, qui était pas très clair sur Gafford aussi, on savait jamais vraiment. Du coup, Cristiano Felicio à un moment a vu beaucoup le terrain. Enfin bon, c'est voilà, on va pas s'étaler sur Cristiano Felicio, mais voilà, c'était une drôle de saison, mais en tout cas, il y a matière à faire. En tout cas, il y a du boulot pour le front office, mais il y a matière à faire.
Mais toi, en tant que fan des Bulls, du coup, toi pour 2021, qu'attends-tu?
Ah, c'est compliqué. Moi, je suis un peu plus mon côté pragmatique pencherait de ton côté, si tu veux. Ou je pense pas que ça sert à grand chose, comme je disais. Je pense que si on remet toutes les choses à plat, on va pas gagner en 2022-2023, et ça va être très compliqué. Parmi les free agents qu'on cite pour la free agency 2021, on est soit sur des stars plutôt sur leur fin de carrière, on va dire, soit sur certaines qui veulent gagner. C'est le moment de gagner, que ce soit des Giannis ou des Anthony Davis qui est de Chicago par exemple, qu'on voit revenir dans les discussions des fans des Bulls, dans les fantasmes en tout cas. Je pense que c'est des joueurs qui ont pas envie de venir pour qu'on leur dise écoute, on va te mettre au centre, puis il va falloir repatienter 3-4 ans pour qu'on construise autour de toi et qu'on essaye de devenir des vrais contenders. Donc je pense pas que ça contenterait un de ces des noms de la Free Agency 2021, et donc je pense pas que ce soit la bonne idée. Je pense plus que voilà, il faut identifier les joueurs. Voilà, maintenant qu'on remet les choses à plat, on va pouvoir vraiment identifier ce front office va identifier les joueurs qu'ils veulent garder dans leur projet, ceux qui ne vont pas rester, notamment justement Kobe White, Leg Levine, t'en parlais, l'évolution de Kobe White, je pense qu'elle va être clé à surveiller. Et puis ensuite essayer de repartir peut-être sur une prochaine free agency quelques années plus tard, ou alors si il y a une draft miraculeuse, j'en sais rien, qu'on ait un gros joueur au centre de l'effectif à voir. En tout cas voilà, même si j'aimerais beaucoup moi pouvoir me faire des matchs avec Anthony Davis dans le maillot des Bulls, je pense pas que ce soit l'idée la plus pragmatique.
Ça, il leur faut la vraie vraie première option. Zach LaVine a vraiment évolué comme une première option par défaut, mais grosse deuxième option, je pense. Grosse deuxième.
Ah oui, si c'est ta deuxième option offensive, je pense que ça va.
C'est ça, même, enfin, pas forcément, mais donc, globalement dans oui. le jeu, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a des déficiences défensives, mais qui offensivement est capable de jouer avec le ballon et qui est capable d'avoir une scalabilité qui lui permet de jouer aussi sans ballon. Donc tu peux lui mettre un porteur de balle qui est moins shooter à côté de lui, mais qui peut entre guillemets s'occuper de servir les autres et d'avoir tout le côté création que lui n'a pas. Tout le côté création que lui n'a pas. Donc, à voir comment les Bulls vont approcher ça. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est susceptible de se faire transférer? Moi, je ne crois pas, parce que je pense que les Bulls l'estiment plus que sa valeur actuelle autour de la ligue. Donc, je pense pas qu'il y aura de gros mouvements.
Je pense aussi.
Pour l'acquérir. Et puis, après, quid du duo Carter-Markkanen? D'ailleurs, toi, t'es plutôt Carter ou Markkanen?
Alors.
Si tu dois choisir le joueur le plus important
des joueurs, on en avait un peu parlé. Moi, cette saison est très compliquée pour Markkanen. Il a été très très frustrant, mais après voilà, comme avec ce qu'on disait sur le manque de communication, c'est difficile de savoir quelles sont les vraies raisons. Mais moi, j'ai beaucoup Wendell Carter, mais il y a eu un petit changement ces dernières semaines, parce que Wendell Carter fait 2-3 déclarations en mode voilà, moi je veux jouer poste 4. Je suis pas très content de mon utilisation, etc. Alors que pour moi, Wendell Carter a toutes les qualités à développer pour certaines, mais pour être le vrai 5 moderne, qui est mobile, il a un petit shoot, il a une vision pas horrible, il est capable de faire quelques petites passes, très bon sur les rotations défensives avec Chris Dunn, comme on l'évoquait tout à l'heure, ils étaient vraiment au centre de notre défense. Donc moi, j'aime beaucoup le profil de Wendell Carter. Et d'un autre côté, voilà, Lauri Markkanen, j'ai pas encore envie d'abandonner. Mais là, si je dois faire un trade cet été, tu me dis, tu peux récupérer, je sais pas quoi. Gianni. Ah, il y a aussi ça aussi, c'est la concurrence sur un poste. C'est-à-dire que Wendell Carter, je trouve qu'il a une vraie valeur dans la ligue, parce que des pivots avec
son bagage technique.
Voilà, son bagage technique, c'est plus compliqué à trouver, ou alors faut souvent les surpayer. Et Markkanen. Si il passe pas un nouveau cap, mais je veux lui laisser cette chance quand même encore un petit peu.
Des ailiers avec son bagage technique, c'est rare aussi.
Oui, c'est rare, mais c'est un profil qui est, comment dire, parce qu'on est sur un grand 4 au large ou éventuellement au poste. Et donc c'est un profil peut-être un peu moins moderne, qui fit un peu moins sur certains plans.
Et moi, le truc avec Markkanen là-dessus, alors tu dis que c'est un grand 4 un peu moderne. Moi, le truc qu'il faut rajouter, et je trouve que ça fait toute la différence, c'est un grand 4 qui peut shooter sans avoir à redescendre le ballon.
Ah, ça,
et
oui.
Ça, c'est très très important.
Ça, c'est vrai.
Et ça, c'est très très important. Quand t'es grand et t'as pas besoin de redescendre le ballon pour pouvoir shooter, ça veut dire qu'on peut plus difficilement, en fait, contester ton shoot. Et ça, pour moi, c'est très important, ça. C'est pas quelque chose que tu trouves chez tous les postes 4, en fait.
Oui, c'est sûr. Mais
c'est même très rare.
Mais est-ce que c'est ce profil que tu veux comme si ce poste 4 est ta première option? Tu vois ce que je veux dire?
Pas forcément, mais après, tu vois, Markkanen, pour moi, c'est un joueur de périmètre, en fait. Markkanen.
Oui, c'est limite un 3.
Il est grand. C'est un joueur de périmètre. C'est pas, enfin, je vais pas dire que c'est Ryan Anderson. Je vais pas dire que c'est Ryan Anderson, mais
on en est pas là.
Mais tu vois, c'est plus, c'est ça. C'est, si tu regardes les compétences basketballistiques de Markkanen et comment il va se créer son jeu, qu'il va aller dans ses espaces et tout ça, c'est un arrière de grande taille, quoi, le gros Markkanen. C'est un arrière de grande taille. Bon, il a un petit peu de jeu d'intérieur quand même, tu vois. Il a pas mal de technique au poste, il a un jeu de pied qui est vraiment intéressant. Mais tu vois que il est plus dans l'optique de shooter que d'aller au panier. On va dire ça comme ça. Il est plus dans l'optique de shooter par-dessus que d'aller au panier pour dominer physiquement.
C'est ça. Mais du coup, la complémentarité est intéressante de ces deux profils, en fait. C'est pour ça qu'aussi on était un peu enthousiaste avant cette saison, de cette draft. Enfin, une raquette sur le papier avec les profils. Après, dans la pratique, c'est autre chose. Mais avec les profils de Wendell Carter et de Markkanen, t'as à peu près tout ce que tu veux en termes de palette sur tes deux intérieurs pour construire un effectif cohérent dans la NBA actuellement. Donc moi, j'aime beaucoup ça, mais la question, c'est ce que tu disais, c'est du lien entre tous ces joueurs, entre Zach LaVine, ces deux intérieurs là autoporteur éventuellement. Est-ce qu'il faut, il te faut un maestro derrière, comme tu disais, un gars capable de mettre en place et de mettre tout le monde dans les meilleures dispositions. Mais en termes de profil, moi, tout me va. Le truc, c'est que si tu veux, enfin, si t'es amené à faire des choix, il va falloir faire des choix. Là, c'est plus compliqué. Mais heureusement, c'est pas mon boulot. Ce sera celui de Karnisovas.
C'est ça. C'est ça. Parce que après, tu vois, le problème avec Markkanen, c'est qu'en fait, si tu veux le transférer, c'est le pire moment pour le faire. Puisque,
totalement.
Voilà, c'est, s'il est au plus bas de son, il est au plus bas de sa valeur marchande, ça n'a aucun intérêt pour toi de le transférer. Tu peux essayer de le prolonger sur un contrat raisonnable, je pense, pour enlever son cap hold.
Ah, mais là, j'ai un peu peur.
Un contrat plus bas que son cap hold, mais malheureusement, tu, pas, en termes de négociation, je pense que lui, c'est plus à son avantage. C'est plus à
voilà.
Il a plus intérêt, du coup, à attendre la fin de la saison, puisque en 2021, les équipes qui vont rater leur gros poisson et les jeunes équipes qui pourront pas avoir les gars du tiers au-dessus, ils vont
ouais,
envoyer
ils
des offers shit. Voilà, ils auront de l'argent à déposer sur des joueurs. Et tu veux être dans ce marché-là où, voilà, c'est un, comme on a dit, hein, c'est un joueur qui a un potentiel assez intéressant. Et que les équipes regardent, je pense que les équipes regarderont.
Oui, avec attention, il va y avoir des coups de fil du côté de Chicago, hein, c'est sûr et certain. Mais je pense que voilà, comme tu dis, le nerf sur Markkanen, ça va être la prolongation ou non, puisque les coups de fil et les mouvements se feront éventuellement en 2021 pour prévenir ou pour compenser des signatures à un peu comment dire surtaxées, on va dire, comme certains pivots il y a quelques années. voilà, mais je pense ce sera le mot de la fin. Voilà, attention. Autour de Markkanen. Rendez-vous en 2021 pour savoir vraiment ce qui va se passer. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de choses à voir sur la saison prochaine. Quelque chose à ajouter autour des Bulls encore, Tom?
Non, ben, tu vois, ce que tu as dit sur Wendell Carter, ça m'interroge un petit peu. Je me demande, est-ce que c'est pas. Tu vois, c'est un pivot. Enfin, quand il a joué pivot, il était souvent victime de fautes.
Ah, ça, oui.
Est-ce qu'il n'est pas fatigué en fait que, ben, comme la ligne défensive se fait facilement trouer. Ben à chaque fois il doit intervenir, il prend des fautes bêtes et du coup il peut pas jouer, il peut pas s'installer sur le jeu. Est-ce que c'est pas ça vient pas de là en fait
C'est possible, c'est possible.
Le fait qu'ils veulent pas jouer pivot, tu vois.
Ah mais c'est possible, mais il y a pas que les fautes bêtes hein. Franchement les arbitres des fois Wendell Carter, je suis pas du genre parce que pour moi sur un match ça s'équilibre les sifflets dans un match de basket, mais je pense que Wendell Carter des fois le pauvre, enfin je me mets à sa place, il se fait siffler des trucs qu'il voit pas siffler en face. Ça doit être très 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 frustrant. Effectivement, c'est une des forces mentales qu'on demande à un pivot et qui doit pas être évident tous les jours. Surtout quand t'es jeune joueur et que t'es pas sifflé comme une star, tel un Anthony Davis ou que sais-je.
C'est ça. Bah, en tout cas, fans des Bulls, profitez bien, profitez de The Last Dance du coup.
Oui, exactement. Puisque, voilà, en ce moment, c'est ça.
Ça permet à Karnisovas de faire ses petits mouvements à Tsum Tsum, puisque voilà, y a, tout le monde parle de The Last Dance, et on oublie un peu le front office.
Ouais, puis The Last Dance, parce que redore aussi un peu le côté, tu vois, le côté bling bling de Chicago, le côté ça gagne à Chicago. Les gens vont faire un transfert entre cette période-là et maintenant, peut-être, on sait pas. Ça peut profiter en tout cas. Bah, l'optimisme est de mise du coup du côté de Chicago. En tout cas, voilà, on a senti le soulagement de beaucoup de fans avec tous ces changements. Tous ces changements, on va évidemment continuer de suivre ça de près. En tout cas, moi, c'est sûr. Le prochain gros rendez-vous pour les Bulls, donc on l'a dit, à date, c'est la prochaine draft, mais ce sera sur les deux saisons à venir et les deux free agency. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été là pour cet épisode. Et puis, avec plaisir, comme d'habitude, vous retrouvez de Kebdo sur toutes les plateformes de streaming, les réseaux sociaux. Au passage, si vous aimez la NFL, je rappelle que le patron Ben peut être retrouvé accompagné de Pierre et Alan dans le Safety Podcast, le premier épisode qui est sorti la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous êtes fan de Foot US. Et pour de Kebdo, eh bien, nous, on va vite se donner rendez-vous pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.